Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques.
Bonjour à toutes et à tous. Une place de la Toile enregistrée depuis les États généraux de la République, organisée par Libération, des États généraux qui se tiennent à Grenoble, dans le beau bâtiment de la MC2, et qui sont consacrés plus particulièrement à la jeunesse et aux questions qui se posent à la jeunesse dans des domaines aussi variés que le travail, l'égalité homme-femme ou le rapport à l'Europe. Alors nous est échu, et nous en sommes ravis, la question de la culture et de la culture numérique en particulier, culture numérique et jeunesse inculte. Culture numérique et jeunesse inculte, tel est l'intitulé de la discussion qui va nous animer pendant les trois quarts d'heure qui viennent. Alors on voit tout de suite l'implicite qui se dissimule sous le regroupement de ces deux syntagmes, culture numérique et jeunesse inculte. Ce qu'on appelle la culture numérique ne serait-elle pas une forme d'acculturation ? La jeunesse ne serait-elle pas acculturée par le numérique, par ses pratiques erratiques et ses objets futiles ? Telles sont les questions auxquelles vont devoir répondre nos trois invités du soir. Hortense Vinet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes photographe, vous êtes ancienne élève de l'École nationale des arts décoratifs et vous êtes membre d'un collectif du nom de Faux Amis.
C'est exact.
Donc il faut que je cite les deux autres membres, que sont Lucie Pastureau et Lionel Pralus. Olivier Tesquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Télérama spécialisé sur les questions numériques. Alors les auditeurs fidèles de l'émission vous connaissent pour vous avoir déjà entendu quelques fois, notamment parler de Wikileaks, auquel vous aviez consacré un livre. Marc Le Glétin, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes, vous dirigez le théâtre de Chelles en région parisienne et vous êtes professeur associé à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis et vous avez été l'auteur en 2007 je crois, c'est ça 2006 ou 2007
2006
d'un livre, Un séisme dans la culture qui était très intéressant parce qu'il annonçait exactement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors je vais vous demander à tous les trois parce que évidemment sachant un peu d'où vous parlez, vous n'êtes pas des ardents défenseurs de l'idée que le numérique acculture la jeunesse. Mais il va quand même falloir examiner les arguments de la thèse adverse. Donc je vais vous demander, dans une démarche platonicienne, de donner tout son poids à l'argumentation de l'adversaire avant de donner la vôtre. Donc je pense qu'il est, important d'examiner la provenance, mais aussi les arguments qui vont dans le sens de cette idée que la jeunesse serait acculturée par le numérique. Alors est-ce qu'on peut se livrer à une forme d'énumération ou de réflexion sur cette argumentation sans être trop ironique ? Marc Le Glétin, commencez.
Voilà, je vais faire un effort. Vous savez, il y a Le Monde des Livres avait publié un article il y a quelque temps qui s'intitulait « Ado 2. Zéro de lecture ». Même si le titre était affublé d'un point d'interrogation, évidemment, on voit ici toute la suspicion qu'il pouvait y avoir sous un titre énoncé comme cela. En fait, en gros, la suspicion est la suivante. C'est que nos jeunes ne lisent plus, ou ne lisent plus de livres en tout cas. Ils ne s'intéressent pas à la culture, entendue comme culture dans laquelle nous avons grandi, les uns et les autres, en tout cas moi qui suis plus âgé que vous. Ils sont invités sur Internet en permanence à copier-coller plutôt que d'approfondir, de chercher à approfondir les sujets auxquels ils sont confrontés. Ils surfent, comme on dit, de manière superficielle, et ils errent comme des âmes en peine, sans structure, sans être structurés, sans être suffisamment préparés, dans ce grand vrac qu'est Internet, avec la difficulté de gérer l'ensemble des informations qui y circulent. Ils sont de surcroît, par abondance de communication sur Facebook, etc., figés dans une espèce de présent perpétuel, avec une difficulté à mettre en perspective, soit historiquement, soit prospectivement, les informations auxquelles ils sont confrontés. Et sans parler, puisque vous avez parlé d'énumération, sans parler des addictions auxquelles ils s'adonnent, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit d'enfiler les films les uns après les autres, comme ça, sur Internet, sans que forcément il en reste grand-chose du fait qu'ils s'enfilent, précisément, avec la confrontation parfois à l'ultra-violence, à la pornographie, ce sont des arguments qui sont souvent évoqués aussi, avec la confrontation à des informations sans être préparé au fait que les informations sont parfois erronées, et même assez souvent erronées dans celles qui circulent sur Internet. Donc on présuppose une forme de crédulité, une crédulité trop forte de nos jeunes ados, préadolescents. sans parler encore des mauvaises rencontres qu'ils peuvent faire et puis des publicités qui clignotent en permanence, en haut, à droite, en bas et à gauche de leur écran quand ils sont sur Internet. Voilà donc des homo numericus qui sont en train de grandir sous nos yeux. Enfin, et...
Des infantes numériques.
Voilà, oui, merci, oui, vous avez tout à fait raison de corriger, bien que si on considère que cela a commencé il y a une quinzaine d'années, il y en a qui ont déjà aujourd'hui la trentaine, qui sont intubés de partout, je veux dire, qui sont prothésés avec des prothèses qui prolongent le cerveau sur des écrans divers, lesquels tubes ingèrent en permanence de quoi se délivrer du moi avec des personnages virtuels, de quoi se délivrer de l'ennui aussi, se délivrer d'un vide intérieur, et avec une surabondance d'imaginaire comme ça qui prolifère et qui vient remplir ce vide intérieur comme un tonneau des Danaïdes, puisque rien ne s'y fixe jamais. Voilà en gros ce qu'on pourrait énumérer comme type de pistes qui sont à explorer quand on veut faire une présentation déclinologiste.
Mais je vous remercie parce qu'on a vraiment l'impression que vous y croyez au terme de cette présentation.
On m'avait demandé de ne pas être ironique.
Hortense Vinet, alors est-ce que d'abord vous accréditez ces pistes de Marc Le Glétin, et ensuite, évidemment, vous faites partie de cette génération visée. Est-ce que, même si vous faites partie de la branche haute, hein, la frange haute de cette génération, enfin quand même, vu de loin, ça donne à peu près la même chose, est-ce que même vous avez observé que ces arguments vous étaient renvoyés à vous, d'une manière ou d'une autre ?
Alors, je pense que c'est assez exhaustif, effectivement, dans la description. Je rajouterais juste à ça que, pour moi aussi, c'est qu'on a mal pris la teneur de la révolution Internet et des écrans numériques, en mettant ça dans la prolongation vraiment des écrans de télévision, et donc en assimilant ça vraiment à la culture de masse qui est déversée de façon unilatérale depuis des masses médias vers un peuple qui serait un peu bête et qui recevrait tout ça brutalement. Et donc c'était mal prendre en compte les spécificités de masses médias.
Et vous pensez que le fait même que ça, tout ça, ça passe par l'écran, ça crée aussi comme s'il y avait une homothésie, je ne sais pas comment.
Je pense que la forme en elle-même de l'objet, voilà, il y a un imaginaire qui est lié à ça. Il y a pas mal aussi de sujets de science-fiction où on voit les gens qui ont un écran à la place du regard. Il y a un imaginaire qui est lié à ça, qu'on est à la réception. On a mal pris en compte la teneur tactile aussi de ces technologies, du fait qu'il n'y a pas que les yeux qui sont forcément impliqués là-dedans, mais aussi le corps par d'autres moyens.
Par exemple ?
Eh bien, par exemple, il y a les écrans tactiles, il y a aussi les expériences de réalité augmentée avec des capteurs. Enfin, dans l'art numérique, il y a pas mal de gens qui se posent des questions là-dessus. Ça vient aussi investir l'espace public. Donc, c'est aussi quelque chose qui nous fait sortir. Il y a l'idée que la télévision, ça enfermait aussi les jeunes chez eux. Ils restaient complètement scotchés devant leur écran sans sortir de leur chambre. Des sortes de otaku japonais à qui on apporte un plateau repas. Et l'idée, c'est qu'ils pensent qu'Internet ou le web, c'est dans la prolongation de ça, alors qu'en fait, c'est aussi un média qui ouvre vers l'extérieur et qui, au contraire, peut pousser aussi à sortir.
Olivier Tesquet.
Oui, il y a une forme de présomption du zapping dans la pratique d'Internet, ou en tout cas dans l'acception qu'ont les gens qui en font la critique et qui peuvent formuler les interrogations de cette façon-là, et notamment le fait qu'on pense qu'Internet, l'objet écran numérique, serait de la même manière qu'un téléviseur une information qu'on reçoit, et donc on pourrait zapper avec une télécommande d'un programme à l'autre. C'est oublier quand même cette particularité qu'a Internet, qui est qu'on peut non pas passer d'une chaîne à l'autre, mais ouvrir un nouvel onglet, appuyer sur pause, revenir plus tard sur un élément qui nous intéresse. On peut se bâtir une culture qu'on ne peut pas se bâtir avec une culture du zapping, parce qu'il y a une forme d'appropriation dans l'écran numérique qu'on ne connaît pas dans la télévision. Par contre, ce que ça présuppose, et ce que disait très bien Marc Le Glatin, c'est qu'il y a besoin d'un apprentissage de ces technologies-là, de pouvoir se les accaparer pour savoir dans le monde dans lequel on évolue, et de ne pas être justement dans cette bête flânerie qui du coup se transforme en forme d'errance si on ne sait pas très bien ce vers quoi on tend.
Mais quand même, je suis d'accord avec votre liste, je trouve assez belle l'idée d'un problème dans le rapport à l'objet. Mais est-ce qu'on peut essayer aussi de comprendre ce qui provoque de l'incompréhension ? dans tout ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on retrouve une forme d'incompréhension au fond assez historique dans les évolutions ? Enfin, alors évidemment, on recite toujours la même chose de Platon dénonçant l'apparition de l'écriture comme étant une perte de la mémoire. Enfin, bon, on revient toujours à ces mêmes exemples. Ou est-ce que cet objet-là, cette manière de faire, cet univers crée une forme d'incompréhension particulière
Je pense que l'incompréhension naît du fait que ce qu'induit le numérique, c'est que c'est non seulement une culture qui serait une forme de culture vernaculaire propre à Internet, mais c'est aussi un mode d'apprentissage, c'est-à-dire que c'est une forme de métaculture. C'est le moyen par lequel, aujourd'hui, on va apprendre, on va recevoir des informations, on va les hiérarchiser et on va construire de cette façon-là une culture, alors qu'il n'y ait pas une culture commune à tous, qui n'est pas une culture au sens légitime du terme, mais qui est plus un agrégat de sous-cultures, de communautés, qui trouvent des ramifications les unes avec les autres. Et je pense que ce n'est pas forcément facile à appréhender quand on a été formé par cette culture légitime, justement.
Alors on va, je pense, consacrer ce temps-là à essayer de définir ce que c'est que la culture numérique ou les cultures numériques, ce qui peut déjà être une première question. Est-ce qu'on met un singulier ou un pluriel ? On va essayer de les définir parce qu'il me semble qu'il y a deux choses. C'est qu'il y a à la fois des objets propres, une histoire, et puis peut-être aussi une façon de traverser les autres cultures. Mais comment est-ce que, dans un premier temps, d'abord, est-ce que vous accréditez le singulier ou le pluriel ? Est-ce que ça a une importance quelconque de dire la culture numérique ou les cultures numériques, Marc Le Glatin ?
Non, je pense pas. Enfin, personnellement, je trouve que c'est pas la question. La question, c'est pas tout à fait le pluriel ou le singulier. Je pense même que c'est quasiment impossible à définir. Et c'est pas pour me défausser, mais ça, on n'a peut-être pas encore le recul pour se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Parce que ce qui est en train de se passer est absolument énorme, et ça fait peur. Et c'est peut-être ça aussi qui répond à la question précédente, c'est que la génération qui n'a pas grandi avec a un peu peur de ce que ça porte. Tellement le bouleversement est profond. Parce que ça touche à la circulation des signes, aux relations humaines, ça touche à la manière de se représenter le monde, ça touche à la communication en général, ça touche en fait à tout ce qui peut fonder de l'anthropologie, des rapports de pouvoir, des rapports familiaux. Donc c'est très très profond, c'est porteur de changements qui peuvent être extrêmement positifs. Mais je pense que quand on veut essayer justement de définir, il faut partir d'une compréhension des pratiques. À mon avis, il faut partir de cela parce que c'est cela qui permet de comprendre ce qui est en train de se construire et qu'on n'arrive pas à définir encore. Ces pratiques, elles permettent plusieurs choses. Elles permettent d'accéder, d'une part, à de l'autonomie. C'est formidable, l'autonomie, c'est quand même le préalable de la liberté.
C'est-à-dire, l'autonomie.
Parce qu'il y a une obligation à l'initiative quand on est sur Internet. On ne peut pas être dans une attitude de simple réception. Il y a une obligation. Les gamins, par exemple, qui font des recherches... Juste un petit chiffre, hein, c'est un chiffre de 2012. 75% de nos jeunes, jusqu'à 18 ans, hein, pratiquent des recherches pour l'école et 80% pratiquent des recherches pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont dans la construction de chemins de la connaissance singuliers qui ne résultent pas de normes qui ont été diffusées préalablement. Ils cherchent comme ça d'un lien à un autre, selon des procédés qui doivent être bien différents selon les personnes, bien entendu. Mais ils sont obligés d'avoir de l'initiative, d'avoir de la participation face à cet outil pour construire des chemins de la connaissance qui leur soient singuliers, comme je le disais il y a un instant. Ensuite, ils ont la possibilité de médier, c'est-à-dire que ce qu'ils ont trouvé et qu'ils aiment, qu'ils ont envie de transmettre à des gens qui leur sont proches et parfois à des gens qui leur sont très éloignés sur des listes affinitaires qui peuvent comporter des personnes vivant sur d'autres continents, ils peuvent transmettre ce qu'ils ont aimé avec un commentaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils deviennent médiateurs dans le champ culturel. C'est pas la simple flânerie, même si la flânerie est nécessaire, à mon sens, pour se construire une culture selon des chemins comme celui-ci. Et en plus de cela, ils flânent, ils font de la médiation, et en plus, ils produisent des contenus. Aujourd'hui, c'est des chiffres que je viens de recueillir, là, qui datent donc de fin 2012. Ils sont aujourd'hui 85% en France à disposer d'applications qui permettent de créer des photos. 60% les utilisent. Les jeunes jusqu'à 18 ans. Hein. Ils sont 60% qui disposent d'applications qui permettent de créer des vidéos. 40% les utilisent. Et ils sont 55% qui disposent d'applications qui permettent de créer des musiques et 37% les utilisent. C'est loin d'être marginal. C'est-à-dire que la coupure traditionnelle entre émetteur et récepteur, entre offre et demande, entre production et consommation, est une coupure qui est en train de se diluer. Et ça, c'est un choc sur le plan culturel. Parler d'une définition de cette culture aujourd'hui, c'est encore, à mon sens, très difficile. Peut-être que vous allez pouvoir me reprendre au mot là-dessus. Ce sont ces pratiques qui sont intéressantes à mentionner parce qu'elles sont en train de provoquer un bouleversement en profondeur.
Oui, alors, non, mais je suis tout à fait d'accord, et c'est très intéressant cette question des pratiques, mais vous voyez très bien ce qu'on peut vous répondre, c'est ok, mais pour faire quoi ? Qu'est-ce qu'on voit apparaître en termes de production, d'objets qui soient propres justement à ces pratiques ? Hortense Vinet, bon, voilà, vous travaillez, vous regardez, oui. Etc.
Pour moi, il n'y a pas tellement un changement dans la culture, c'est surtout un changement de rapport à la culture. Et pour moi, le spectateur est passé au rôle d'amateur, c'est-à-dire amateur au sens de celui qui aime les arts, qu'ils soient majeurs ou mineurs, qui les collectionne, qui les partage et qui éventuellement les pratique aussi. Et ça, la pratique culturelle d'un art, c'est quelque chose qui s'est développé avec Internet de façon énorme. Quand on va sur les plateformes de blogs, on s'en rend compte que une grande partie des blogs sont consacrés à des passions de l'ordre d'une pratique artistique. Il y a des blogs de photographie qui font état d'une pratique de la photographie, mais aussi d'une pratique culturelle qui consiste à visiter des expos, à trouver d'autres photographes, à les mettre en parallèle, à écrire dessus, à échanger. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau avec ces plateformes-là. C'est-à-dire que avant, l'amateur, c'était celui qui était chez lui, qui peignait le dimanche pour lui, pour sa famille. Maintenant, il y a une envie de partager. Et donc, il y a vraiment une culture de l'amateur qui se développe, mais de l'amateur, pas au sens péjoratif. C'est pas forcément de l'amateurisme. Et c'est dans l'histoire de l'art d'avoir ces rapports entre amateurs et culture savante, et ces batailles et ces craintes les uns vis-à-vis des autres. C'est dans l'histoire de la photographie qui a dû naître dans cet état d'amateurisme et se construire en tant qu'art, et qui depuis craint fortement les amateurs parce qu'elle a peur de revenir là-dedans, bien que les photographes professionnels utilisent toujours les codes des amateurs dans leurs photos comme clin d'œil, en utilisant par exemple les effets mal cadrés, de flou, de surexposition avec le flash. Donc il y a aussi cette crainte de la culture de l'amateur, je pense aussi.
Olivier Tesquet, vous accréditez, puis après je vous redonne la parole.
Oui, il y a une incitation à la création qui est inhérente à Internet. Quand vous voyez aujourd'hui, alors je vais prendre un exemple éminemment populaire pour ces temps-ci, vous avez 1 milliard de personnes qui, sur YouTube, ont regardé la vidéo de Gangnam Style, du rappeur coréen.
Donc 100 000 fois moi.
Donc ont regardé cette vidéo en entier ou pas d'ailleurs sur YouTube. Combien sur ce milliard de personnes vont décider eux-mêmes à un moment de produire du contenu qu'ils vont poster sur YouTube ou ailleurs d'ailleurs? Et donc on est dans ce phénomène assez nouveau, mais qui n'est pas une dichotomie, qui est juste une forme de nouveau paradigme. On a des gens qui sont à la fois créateurs, diffuseurs et récepteurs, parce qu'on a une facilitation de la création et une incitation au remix, au mashup, qu'on connaissait déjà dans la musique avec le sample, et on a aussi une facilitation des modes de diffusion qui est complètement endémique, quoi. Donc effectivement, la conjonction de tous ces éléments-là va pousser on va avoir un plus grand nombre d'œuvres, probablement un public qui va être moins nombreux pour chacune de ces œuvres, une audience qui va diminuer, mais en tout cas, on est face à une augmentation assez exponentielle de ce qu'on pourrait englober sous le terme culture numérique.
D'accord, mais tout ça pourquoi ? Non, mais tout ça pourquoi ? Parce que c'est un détournement de Gangnam Style. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de valeur artistique à ça ?
Voilà, c'est ça l'intéressant, c'est voir ce que c'est en train de produire sur le plan esthétique. Et là, il y a des choses quand même dans différents domaines artistiques qui crèvent les yeux. Tu parlais du mix il y a un instant. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire que dans la musique, vous appelez ça le bootleg, mashup. Enfin, allez voir sur Internet sur ces termes, vous verrez des exemples. Moi, j'ai vu ça en direct dans un colloque auquel je participais. Il y avait un musicien comme ça qui avait préparé un morceau avec de la musique acoustique qu'il avait lui-même enregistré, pré-enregistré. Et il a pris un morceau des Rolling Stones, un morceau de musique indienne et un morceau de Jean-Sébastien Bach. Donc ça faisait 4 morceaux. Et il a fait une combinaison à partir de tout ça. Pendant à peu près une demi-heure, il a combiné ces différentes musiques en ralentissant certains tempos, en accélérant d'autres pour que les choses collent, etc. Il a travaillé, il était avec ses écouteurs sur les oreilles, il a travaillé sans doute les harmoniques pendant que nous, on était en train de parler d'autre chose. Et à la fin, il nous a fait écouter ce que ça donnait. C'était stupéfiant. Alors, je ne dis pas que c'est forcément des œuvres absolument géniales à chaque fois, mais c'était stupéfiant parce que là, ça me permet de répondre en partie à ce à quoi je n'ai pas répondu préalablement. Quand vous me disiez, c'est quoi la culture, comment ça se caractérise ? Je dirais que c'est une culture des cultures. C'est ça, en fait, qui est en train de se construire. Parce qu'en prenant des morceaux qui viennent d'univers culturel complètement différents, ils reconstruisent quelque chose avec la sensibilité d'aujourd'hui, c'est-à-dire en vivant dans l'environnement qui est celui d'aujourd'hui, à travers le filtre de leur propre sensibilité, ils reconstruisent quelque chose qui met en lien des choses qui n'avaient préalablement pas été mises en lien, en tout cas pas dans des œuvres. Bon, ça, c'est le mix. L'autre caractéristique, d'un point de vue esthétique, qui me semble intéressante, c'est qu'on a de plus en plus droit, alors c'est pas nouveau non plus, à des activités de création transversale, c'est-à-dire qui mélangent plusieurs domaines d'expression artistique. C'est pas nouveau, parce qu'on sait très bien que dans le spectacle vivant, on a déjà eu de la danse avec des arts plastiques, du théâtre avec de la musique et de la danse, etc. Mais justement, sur Internet, c'est quasiment systématique, c'est-à-dire qu'à la fois du texte, de l'image et du son. Et encore, de l'image fixe et de l'image qui bouge. Et du son. Et la plupart des créations aujourd'hui qui sont en train de s'inventer sous nos yeux, sous nos oreilles, sont justement des créations qui ont directement ce caractère transversal. Et c'est d'ailleurs synchrone, c'est-à-dire ce qui est en train de se passer sur Internet est probablement en lien avec ce qui se passe sur les scènes, où de plus en plus, les spectacles de danse et les spectacles de théâtre confinent à des formes qui se ressemblent par certains aspects. Et puis, un troisième élément sur le plan esthétique est intéressant, c'est que nous avons affaire de plus en plus à des œuvres collaboratives, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qui produit une œuvre comme un produit fini. Vous avez des logiciels de création collaborative de bande dessinée, des logiciels de création collaborative de romans, des logiciels de création collaborative dans le domaine des arts plastiques, et des personnes qui peuvent se situer dans des pays différents, sur des continents différents, peuvent travailler ensemble, quasiment en direct, pour construire une œuvre qui est un processus. Qui est un processus qui peut être perpétuel, c'est-à-dire ce qui fait œuvre, c'est quelque chose qui est en perpétuel cheminement. Ce n'est pas forcément faire un produit fini qui va ensuite se vendre. C'est ce qui fait culture, c'est justement le fait de participer en permanence à quelque chose qui se construit, de quitter cette création-là, de partir sur une autre ultérieurement. Vous voyez que le rapport à l'art, à la chose, est transformé.
Et autant deviner justement dans votre pratique, à la fois dans votre collectif et dans ce que vous fabriquez comme type d'objet, que vous appelez de ce joli nom de pomme, les petits objets multimédia, en quoi, à votre avis, ce que vous faites là, comment vous le faites, ça relève justement de tout ce que vient de dire Marc Le Glatin en termes de ce qui définirait, disons, voilà, une culture numérique?
Alors, nous, un des thèmes sur lesquels on a fédéré notre collectif, c'était la volonté de trouver de nouveaux modes de narration, en particulier pour la photographie. Donc là, c'est évident que les nouveaux médias permettent non seulement par la dématérialisation de l'image, mais aussi du texte, de nouvelles, justement, narrations qui sont dans l'espace, c'est-à-dire effectivement on peut faire des projections à partir de ça, on peut faire des vidéos qui circulent sur Internet, mais ça peut aussi être dans le temps, on peut imaginer une œuvre qui évolue au cours du temps par rajout. C'est très riche justement de ça. On peut aussi imaginer, nous c'est quelque chose à laquelle on est attaché, c'est le transmédia, c'est-à-dire que le numérique c'est pas un média qui exclut les autres. C'est un média qui vient en complément aussi des autres et qui les inclut. Et
on peut par exemple,
nous, on a travaillé l'année dernière sur un livre en partenariat avec la Ligue de l'enseignement, et qui a un objet multiple, en fait. Il y a une trame dans le livre. À la fin, il y a un DVD qui présente un certain nombre d'œuvres qui peuvent s'apparenter à des pommes, sauf qu'elles sont sur le DVD. Et il y a un blog aussi qui vient fédérer l'ouvrage, qui vient montrer le processus de création. Comme c'est un ouvrage qui a un but de transmission de mémoire, qui est sur une période de l'histoire particulière, c'est-à-dire l'engagement des Juifs étrangers pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi tout un fonds iconographique et de recherche qui est associé à ce blog. Et par ailleurs, il y a aussi un dossier pédagogique qui est mis en ligne pour aider justement les profs à appréhender cet objet. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a pas un support qui exclut les autres, chacun a sa spécificité, et l'intérêt du numérique, c'est justement de forcer justement les autres médiums à se spécialiser et à revenir à leurs particularités qui font qu'ils sont intéressants. Voilà.
Alors effectivement, type d'objet particulier, vous avez donné un exemple, Marc Le Glatin, vous en avez donné plusieurs, mais vous avez dit, Marc Le Glatin, quelque chose, je pense, sur lequel on peut s'appuyer, qui est l'idée que le numérique serait pas simplement une culture, mais une culture des cultures. Et là, effectivement, c'est assez frappant. C'est-à-dire que même si on n'est pas un producteur culturel, c'est-à-dire qu'on est vraiment juste quelqu'un qui va, pour utiliser ce terme assez laid, qui consomme de la culture, qui regarde des films, qui va voir des expositions, qui lit des livres, en quoi est-ce que le numérique, le fait qu'aujourd'hui, derrière votre écran, vous pouvez faire tout ça, c'est-à-dire qu'en quoi est-ce que le numérique, la culture numérique, c'est aussi une un infléchissement ou une nouvelle manière de vivre les autres cultures, celles qui préexistaient largement au numérique et qui ont été, comment dire, presque aspirées dans l'univers numérique. Et comment est-ce que on fait ça d'une manière différente de la manière dont on le faisait avant, Olivier Tesquet?
Je vais reprendre juste Nicolas Negroponte, qui est un des penseurs récents d'Internet, disait que l'âge du numérique abolissait la géographie. Ça abolit non seulement la géographie physique, par bien des aspects, mais ça abolit aussi le périmètre de notre culture, de notre patrimoine, de la façon dont on l'acquiert. Et c'est vrai que, par exemple, je vais prendre mon cas personnel, j'ai 25 ans, j'ai construit toute ma culture musicale à l'époque où MySpace connaissait cette espèce de boom, où on a eu la problématique du, alors ce que certains appellent du téléchargement illégal et ce que d'autres appellent du partage de la culture qui était de plus en plus saillante. Et j'ai construit toute ma culture musicale, mais aussi sur plein d'autres choses, sur le cinéma ou sur d'autres champs, par justement cette façon de picorer un peu et de sélectionner ce qui nous intéresse pour ensuite reconstituer, recracher d'une certaine façon, ce que disait un peu Marc Le Glatin, de recomposer plusieurs pans d'un patrimoine commun pour en faire quelque chose de particulier et de singulier.
Donc ça voudrait dire que c'est une manière de se constituer une culture des autres cultures qui reposerait plus sur l'individualisation, en gros, puisque c'est... Non ? Vous ne pensez pas ça, Marc Le Glatin ?
Pas vraiment, parce que je pense que ça se rapproche plus de ce qu'ont été à une époque, quand elles étaient encore très vivaces dans un pays comme le nôtre, les cultures populaires. C'est-à-dire que certes, il y a une démarche individuelle qui est une démarche qui consiste à aller chercher des influences esthétiques, chercher des émotions, etc. Et après, on est beaucoup plus dans des pratiques du partage des relations humaines, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec des gens qu'on connaît bien, des gens qu'on connaît beaucoup moins bien, etc. Donc c'est pratiquement ça la définition des cultures populaires. Les cultures populaires, elles ont toujours reposé sur des pratiques. Les gens dansaient, chantaient, etc. Ils partageaient ensemble un moment de culture et c'était une occasion de relations humaines. Et il ne faut quand même pas oublier cette dimension. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelqu'un qui est isolé face à son écran complètement et qui ne pense que dans sa bulle ce qu'il pourrait monter lui-même. Il faut toujours savoir que Internet, c'est en fait un immense réseau qui permet d'être en connexion avec des tas de personnes en permanence. Et je dirais même que s'il existe une solitude physique face à l'écran, celle-ci peut générer des frustrations. Eh bien, oui, elle en génère, parce qu'on s'aperçoit que la génération qui, justement, passe beaucoup de temps sur Internet, c'est aussi celle qui descend en bas de la rue et qui va s'investir dans des pratiques culturelles de proximité, genre des cafés musiques, etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de global local, comme ça, qui est en train de se construire, qui est fait de partage et de pratiques aussi bien face à l'écran que dans la rue, dans le quartier, dans un lieu culturel comme ici. Il y a un désir de participer à la production de l'ordre symbolique, en quelque sorte, qu'on retrouve tant dans les pratiques face à l'écran que dans les pratiques dès qu'on est descendu en bas de chez soi. Et c'est ça qui est en train de bouger, et à mon avis, c'est le contraire de l'individualisme.
Olivier Tesquet.
C'est vrai que ça a sa limite qui peut s'exprimer dans un protocole informatique assez simple, parce que le peer-to-peer, qui est donc l'échange de pair à pair, nécessite d'avoir d'un côté ce qu'on appelle un seeder, qui est un émetteur, et ensuite un leecher, qui est un récepteur. Donc à partir du moment où vous avez ce protocole qui se met en place et que vous avez deux personnes qui ensuite vont faire une forme de tache d'huile, on va avoir des communautés, qui vont se structurer autour de goûts, autour de rassemblements affinitaires, de choses comme ça. Et effectivement, d'une impulsion individuelle, j'aurais tendance à dire, parce qu'il faut avoir quand même cet esprit d'initiative, de curiosité, de un peu savoir comment apprivoiser cette espèce de grande jungle, pour reprendre aussi, là encore, des métaphores très éculées sur ce qu'on peut entendre sur Internet, pour ensuite rejoindre ou bâtir des communautés ou des sous-communautés numériques. Et d'ailleurs, si vous prenez par exemple l'architecture de plein de sites sur Internet, on va prendre un exemple de quelque chose qui est souvent considéré comme un espèce de temple de la culture numérique, un site américain qui s'appelle Reddit. Reddit, vous avez dessus des, donc vous avez le site général, et ensuite vous avez des subreddits qui sont donc des espèces de sous-communautés affinitaires où vous avez alors vraiment tout et n'importe quoi. Hein. Vous avez des sujets très sérieux. Vous avez même Barack Obama qui a répondu à des questions d'internautes pendant la campagne présidentielle américaine. Il avait choisi Reddit pour le faire. Vous avez des, notamment des fils de discussion sur les libertés numériques qui sont extrêmement alimenté, suivi, où vous avez beaucoup de gens experts en la matière qui viennent intervenir, apporter leur point de vue, et vous avez des choses complètement cocasses et très spécifiques à la culture numérique au sens vernaculaire du terme, là encore, que sont les fameux lolcats, donc ces photos de chats, ou les mèmes, ces éléments récursifs visuels qu'on trouve sur Internet. Et vous avez donc cette espèce de grande marmite, mais dans laquelle chacun va pouvoir trouver son petit, sa petite alvéole, comme dans une immense ruche à laquelle se greffer.
Et en même temps, et ça c'est un aspect qui est intéressant, c'est que, parce que en vous écoutant, on se dit bon, c'est absolument merveilleux. En même temps, que devient la culture classique, que deviennent les anciennes manières de faire, etc. Je finis ma question, Marc Le Glatin, une seconde. Bon, et alors que on s'aperçoit, si vous citez par exemple le mashup ou le recyclage, etc., que ce sont évidemment des pratiques qui ont largement précédé l'Internet. Enfin, après tout, qu'est-ce que sont les essais de Montaigne si ce n'est du recyclage ? Et passons le temps à citer des auteurs latins, sans même parfois dire qui dit ça. Et puis après, dans l'histoire de la littérature contemporaine, le cut-up, par exemple, il y a des livres entiers qui ont été écrits depuis les années 60 à partir d'autres livres. Bon. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette manière de pratiquer, qu'on peut craindre par ailleurs, parce qu'on peut craindre une forme de dissolution, etc., il y a au fond aussi un réinvestissement de pratiques culturelles, d'utilisation des autres cultures, des anciennes cultures, des cultures traditionnelles, qui est au fond assez, elle-même assez ancienne, Hortense Vinet.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que pour moi, la culture numérique n'est pas un rejet des autres cultures, mais s'inscrit dans le mouvement qui a été amorcé aussi au début du XXe siècle de réflexion sur l'image. Que ce soit le pop art ou les collages surréalistes, à partir du moment où l'image a commencé à investir l'espace culturel, l'espace vécu, les avant-gardes se sont saisies de ça pour justement réfléchir sur la société. Donc oui, c'est dans la prolongation, c'est peut-être juste le paroxysme du fait de le nombre d'images en circulation.
Mais alors, je vais vous donner la parole, Marc Le Glatin, tout de suite avant que vous tombiez d'apoplexie. C'est que non, mais Hortense Vinet a prononcé un mot intéressant qui est celui des avant-gardes. Et au fond, on se demande si, quand vous parlez tous de cette culture numérique, vous ne parlez pas d'une avant-garde, c'est-à-dire de gens qui, dans ce monde du numérique, se sont particulièrement appropriés des modes de production ou alors à la fois des modes de visionnage ou d'écoute qui sont particulièrement critiques ou particulièrement construites. Quand vous racontez, Olivier Tesquet, la manière dont vous constituez une culture musicale ou cinématographique, on se dit c'est merveilleux, mais que peut-être que tout le monde ne fait pas ça. On peut faire ça, mais on peut aussi avoir des pratiques erratiques, etc. Et donc est-ce que au fond on ne parle pas justement d'une petite avant-garde là simplement?
Je citais tout à l'heure des chiffres qui montraient que l'usage des logiciels, que ce soit pour la photographie, pour la musique, qui sont quand même assez éloquents. Ils montrent que, alors à des niveaux différents, certes, mais beaucoup de jeunes s'adonnent à ce type de pratique. Et je pense que, on est justement, si c'est une culture populaire, c'est peut-être pas une culture d'avant-garde. Hein, si c'est en train de devenir une culture populaire, parce que les avant-gardes, si on prend celle d'après la guerre 14, prenons par exemple le mouvement surréaliste, certes, ils avaient, pour des raisons politiques, le désir profond d'entrer en contact avec le peuple, etc. Mais la réalité a été fort éloignée de cela. On le sait bien, ils ont beaucoup plus concouru à l'évolution culturelle des classes dominantes qu'autre chose. Bon. Donc là, on est vraiment dans des pratiques qui sont très larges. Alors, elles sont faites à des niveaux différents. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elles ne peuvent devenir intéressantes de façon large que s'il y a préparation. C'est-à-dire que la participation, c'est très bien, mais la participation, ça se prépare.
Et ça se prépare?
Alors, ça se prépare partout, dans beaucoup d'endroits. Je peux en citer quelques-uns. D'abord, l'école. Je pense que l'école a besoin de s'approprier complètement cet usage qui est si massif dans la population qui se trouve en face des enseignants, qu'elle a pris un retard. Bon, on peut l'en excuser, c'est pas simple. Hein. Mais Internet, c'est pas simplement des supports pédagogiques, c'est aussi apprendre à travailler avec l'outil, techniquement et pas seulement. Je pense que l'école aussi doit plus que jamais donner de la verticalité sur ce grand horizontal qu'est Internet. Et c'est là que je vais paraître peut-être un petit peu réactionnaire sur les bords, mais je ne pense pas que ce soit le cas.
Vous avez le droit maintenant, au bout de 40 minutes d'émission.
C'est qu'il faut plus que jamais dispenser les humanités. C'est-à-dire que pour se repérer dans ce grand vrac, comme je le disais tout à l'heure, qu'est Internet, plus que jamais, il faut que nos jeunes puissent se repérer dans l'histoire des idées, dans l'histoire des arts, dans l'histoire des sciences, dans l'histoire tout court. Hein, et quand on voit le sort qui a failli être réservé ou qui a commencé à être réservé à l'histoire ces dernières années, c'est quand même hallucinant. C'est plus que jamais, c'est nécessaire. Indépendamment de ça, évidemment, il y a la nécessité de connaître les techniques pour mieux apprendre à flâner, pour mieux apprendre à faire de la médiation et aussi pour mieux apprendre à produire des contenus. Produire des contenus, ça suppose des ateliers de pratique artistique, d'écriture, de jeu, enfin dans tous les domaines artistiques possibles et imaginables. Pourquoi aujourd'hui n'y a-t-il pas plus de classes d'électroacoustique dans les conservatoires, en tout cas de petite dimension? Pourquoi n'y a-t-il pas systématiquement des enseignements au multimédia dans les centres d'art plastique? Pourquoi n'y a-t-il pas systématiquement des enseignements qui croisent vidéo, utilisation de capteurs et jeux dans des lieux culturels de spectacles vivants, comme ça devrait être le cas? Je veux dire que l'intégration de la dimension numérique dans les expressions artistiques traditionnelles doit être pensée dès maintenant.
Hortense Vinet, sur ce cas-là, puisque vous vous trouvez exactement au centre de cela.
Voilà. Donc le collectif travaille depuis maintenant 3-4 ans avec une structure qui s'appelle la Maison du Geste et de l'Image, qui est à Paris, et dont la vocation qu'elle s'est donnée est justement de mettre en relation des artistes avec des publics scolaires et de bâtir des projets où les artistes sont en interaction avec les enseignants, justement, pour avoir un projet qui puisse s'intégrer aussi dans une démarche globale de la classe et pour avoir des projets qui répondent aussi aux attentes peut-être de l'enseignant en matière de sa formation personnelle aussi. Il y a aussi des formations qui sont dispensées aux adultes pour accompagner.
Et vous sentez une appétence?
Alors, pour ce type de formation? Oui. Alors les adultes sont très demandeurs, mais les jeunes aussi. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'ils viennent alors avec des niveaux de pratique totalement différents et des prises de conscience de l'outil totalement différents aussi. Il y a des gens, donc des jeunes qui ont 15-16 ans et qui sont passionnés, qui ont des blogs, etc., des pratiques culturelles. Il y en a pour qui l'usage culturel de la photographie, c'est Facebook. Et Facebook, c'est un usage purement relationnel de l'image. Et finalement, l'image n'a pas d'importance, c'est le geste qui compte. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand on fait de la pratique, c'est-à-dire que ça arrive régulièrement de donner un appareil photo à un jeune, et il fait la photo, il n'a pas regardé dans l'appareil photo. Je dis même pas, que c'est un argentique et qu'il faut regarder dans le viseur, c'est que même s'il a vu un écran, il n'aurait pas regardé. Parce que quelque part, il y a une pratique expérimentale de ces moyens de création qui fait qu'il ne prévoient pas forcément l'image qu'ils vont faire, ils attendent d'être surpris par l'image qu'ils ont faite. Et c'est aussi la possibilité du numérique de faire des milliers d'images et après de ne pas choisir.
Donc vous accréditez assez l'idée qu'il faut réintroduire de la verticalité, de la transmission verticale à l'intérieur de ce monde de l'horizontalité qui est le monde du numérique.
Mais on peut pas se faire tout seul.
mais quand même, alors il me semble que, alors si on est d'accord avec tout ce que vous dites, moi je le suis assez. Il me semble que quand même je vois deux gros dangers qui se portent sur les cultures numériques en elles-mêmes. Si on dit voilà, c'est ça, c'est intéressant ce qui est en train de se passer, mais en tout cas c'est en train de se passer, on peut pas faire sans. Il me semble qu'il y a deux grands grands problèmes. D'abord, on est presque en train de parler d'un monde qui est le monde du web d'il y a quelque temps. C'est-à-dire que aussi le numérique c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le web, surfer, aller chercher de l'information, flâner, c'est presque un souvenir dans la pratique de ce que c'est que l'Internet aujourd'hui. C'est-à-dire que je fais référence à un très beau texte de Morozov qui s'appelait « La mort du cyberflâneur » et qui s'inscrivait totalement dans ce que vous dites, puisqu'il revenait à Baudelaire, Benjamin, les surréalistes, en disant « voilà, ça c'était la pratique du web, quand on passait encore par le web, cette espèce de bazar étonnant qu'est le web. Aujourd'hui, la pratique de l'Internet, c'est les applications. C'est-à-dire c'est des autoroutes qui nous mènent directement à un lieu, donc on ne erre plus, on ne flâne plus. Et est-ce que déjà, donc il n'y a pas ce danger-là, qui est un danger, disons, technico-économique du changement de ce qui est en train de venir à l'Internet, bon, première chose. Et puis deuxième chose, c'est qu'il y a aussi l'État de l'autre côté. C'est-à-dire, il y a des lois, des règles, et comme vous dites, Olivier Tesquet, voilà, le partage, aujourd'hui, c'est compliqué de partager. Alors, ça l'est pas factuellement, mais disons, légalement, c'est compliqué. Bon. Et comment faire pour préserver cette culture des cultures qu'est la culture numérique, entre ces deux gros écueils que me semble être d'un côté le marché, disons, et l'autre l'État, Olivier Tesquet.
Sur le premier point, c'est vrai que, alors pour reprendre un peu la rhétorique de Morozov dans son texte, on est dans une forme d'osmanisation d'Internet, c'est-à-dire que à la flânerie sous les arcades du 19e siècle sont en train de se supplanter de grands axes où on met du macadam à la place des pavés et où effectivement c'est des environnements de plus en plus propriétaires et des logiques de silos. Alors c'est le cas avec Apple, avec Google, avec Facebook, on pourrait énumérer une longue liste de cette façon-là et qui sont effectivement des environnements applicatifs dans lesquels on n'a pas d'incitation à sortir de l'environnement en question et on évolue dans une forme de vase clos où on a l'impression qu'effectivement cette culture numérique qu'on pouvait avoir au début des années 90, des raies sur des newsgroups, des raies sur Geocities sans fin ou sans but, ou en tout cas en se constituant comme ça avec, sa petite serpette pour débroussailler tout ça. Aujourd'hui, on est dans une logique un peu plus, on va dire, pas verticale, mais en tout cas plus linéaire et plus balisée que ce que c'était avant. Sur le deuxième point, pour prendre un exemple, enfin en tout cas une verbalisation très législateur, c'est la question du financement de la culture et de qu'est-ce qu'on fait face au téléchargement illégal, etc. Alors,
c'est pas une question qu'on va régler là dans la minute.
Non, il y a peu de chance. A priori, j'ai pas la solution dans ma poche. En revanche, effectivement, il y a cette croyance du législateur que le partage de la culture sur Internet est une nuisance à la culture légitime, subventionnée, pardon d'utiliser un gros mot. Et donc, aujourd'hui, on est toujours dans cette espèce de quête du consensus entre les libristes, on va les appeler comme ça, qui voudraient justement légaliser les échanges non marchands et qui plaident pour un partage libre de cette culture-là, et de l'autre côté, une bonne partie de la classe politique et des industries culturelles qui sont derrière, qui sont persuadées que ce partage-là nuit à leur création, à leur potentiel de création, parce que ça nuit à la rareté des œuvres qu'ils proposent. Et donc, on est toujours dans ce débat, ça fait déjà un petit moment que ça dure. On entame bientôt la 5-6e année de débat sur ces questions-là. Alors, effectivement, on ne va pas la trancher dans la minute, mais il faut trouver, c'est un peu de wishful thinking, ce point de rencontre entre le législateur et la pratique.
Marc Le Glatin, peut-être pour conclure sur cette question des deux écueils qui menacent la...
Oui, la question que vous aviez posée, qui est à mon avis une très très bonne question. C'est-à-dire que les applications, c'est effectivement le retour du marché là d'où il avait été en grande partie évacué avec l'Internet libre. Alors d'abord, il faut tout faire pour défendre l'Internet libre. Et ce qui s'est passé avec l'ACTA, là, avec la décision du Parlement européen de ne pas ratifier cet accord contre la contrefaçon, comme il disait, Anti-Counterfeiting Trade Agreement, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que, en gros, ce qui était en gestation, c'était de limiter la bande passante pour l'Internet libre et accroître la bande passante pour les applications qui sont payantes. Ça, c'est monstrueux. Évidemment, il faut tout faire pour préserver le web d'antan qui existe toujours. Je vous trouve un petit peu dur en disant que ça a disparu. Non, il existe toujours et je suis sûr que beaucoup de gens ici continuent à l'utiliser très régulièrement, moi le premier. Les applications, effectivement, c'est un univers beaucoup plus fermé, un univers où la marchandise a repris ses droits. Donc, les applications sur les iPhones, etc. Bon, on voit de quoi je veux parler. Donc, préserver un Internet libre et préparer justement les gens à mieux l'utiliser et à ne pas être inféodés aux applications. Ça, c'est un enjeu politique et même idéologique, me semble-t-il. Quant à l'État, alors c'est une question sur laquelle je me suis exprimé en d'autres lieux, par d'autres biais, mais je suis pour ma part partisan du fait qu'il faut tirer les conclusions d'un élément extrêmement nouveau, c'est que désormais, une fois qu'une œuvre est créée, ce qui représente un coût, qui doit être rémunéré d'une façon ou d'une autre, je n'en disconviens pas, mais une fois qu'une œuvre est créée, elle peut être diffusée à l'infini, sans coût. Donc elle n'est plus rare. Et si elle n'est plus rare, en économie, on ne peut pas appliquer de prix. Donc on quitte l'univers marchand, c'est logique, je pense qu'il faut à un moment donné tirer les conclusions politiques et juridiques de ce fait. Si on n'est plus dans l'univers marchand, ça devient un bien commun librement échangeable, et ce sont des systèmes de mutualisation qui doivent se substituer au système marchand pour rémunérer, comme la sécurité sociale, comme l'éducation nationale. Et si on veut bien considérer politiquement, je termine juste là-dessus, que finalement l'intérêt de la société tout entière, c'est qu'il y ait une éducation libre, gratuite, l'intérêt de la société tout entière, c'est qu'il y ait un partage collectif du risque santé à l'échelle de la nation, et chacun cotise et tout le monde paie selon ses moyens et reçoit selon ses besoins, eh bien, l'intérêt de la nation, ce serait que justement tout le monde ait accès librement à la culture, une fois s'être acquitté par d'autres biais que par le marché d'un paiement forfaitaire.
Merci, merci beaucoup à tous les trois. Bon, vos références sont sur la page de Place de la Toile. Je rappelle que cette émission est enregistrée depuis les États généraux de la République, organisée par le journal Libération à Grenoble. J'en profite donc pour remercier la MC2 de Grenoble pour son accueil et le public d'être venu assister à cette table ronde. La semaine prochaine, dans Place de la Toile, nous demanderons si l'Internet des objets est vraiment pour demain et si c'est un avenir désirable. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique aujourd'hui à Grenoble, Yvan Charby, réalisation Olivier Guérin. Je vous signale que dans 3 minutes, Louise Touré, dans la rue des écoles, va aborder une question qu'on a frôlée un moment, qui est la question justement du rapport des enfants aux écrans. Un rapport vient de paraître sur le sujet et Louise en fera l'analyse. Mais tout de suite, c'est Ligne de Fuite, la chronique d'Edoui Plenel. Bonne soirée, bonne semaine.